is a DJ Underground exclusive.
Bonjour et bienvenue dans Je vois pas le rapport avec la Bretagne, votre émission de vulgarisation militante avec vos deux animateurs préférés, Shona.
Salut.
Et moi, Morgane. Tous les mois, vous aurez cette émission sous le signe du ravachol. Et tous les mois, l'émission parlera d'un thème. Et aujourd'hui, à l'occasion de la marche anniversaire pour Angelo, on va parler de violence policière avec une invitée, Aurélie Garand. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Donc Aurélie, présente-toi un petit peu.
Bah, je m'appelle Aurélie, je suis la sœur d'Angelo. Depuis 3 ans, on lutte. Depuis la mort d'Angelo, l'exécution de 5 balles dans le torse.
Donc pour aborder ce sujet, on va voir dans une première partie la violence et la police. Comme quoi c'est des trucs qui sont relativement synonymes en fait. Hein. Et ça sera Aurélie qui fera la deuxième et la troisième partie avec une deuxième partie sur le combat de sa famille depuis 3 ans. Et sa troisième partie sur le système judiciaire, pénitentiaire, l'engrenage et voilà. Donc pour commencer sur la violence et la police... Je vais me baser sur les travaux de Sébastien Rocher, qui est un sociologue qui a fait le pari de faire une vidéo pour présenter les violences policières en étant le plus objectif possible. Ce n'est pas du tout un militant de gauche. Voilà, ça me fait de la peine, mais bon. On constate directement qu'il y a bien moins de violences policières par rapport au début du XXe. C'est-à-dire qu'au début du XXe, la Troisième République n'était pas encore mise en place. La violence, la police n'était pas encore professionnalisée. La police était armée de fusils et maravait les foules hein, comme il pouvait. Il butait tout le monde et c'était très bien. À partir de la Troisième République, donc, on va assister du coup à une professionnalisation de la police. Ils ne vont plus être légitimes pour viser dans la foule, etc., pour exécuter les manifestants, même si les violences sont toujours présentes, hein, on parle quand même de police. Et le revirement de situation va se jouer à partir des années 2000, où M. Sarkozy, notre ancien président, va passer ministre de l'Intérieur. On se souvient en 2003 des émeutes des banlieues. Dans les années 2000, la police va prendre un tout autre tournant. Avec notamment la mise en place du LBD, qui va jouer un rôle très décisif, étant donné que le LBD va devenir une arme relativement habituelle pour la police, pour les forces de l'ordre. Cet usage du LBD, donc à partir de Sarkozy en ministre de l'Intérieur, n'est pas du tout contrôlé, et les minorités en sont les premières victimes. Donc les minorités, on pense notamment, du coup, dans les émeutes des quartiers, à tous les morts qu'il y a eu. On pense notamment, donc... aux jeunes des quartiers qui sont noirs, qui sont arabes, on pense aux gens du voyage, on pense à toutes ces minorités-là dont on ne parle pas. À partir des Gilets jaunes, donc l'année dernière, on assiste à un retournement de situation car les premiers touchés sont toujours bien sûr les minorités, mais on a également les blancs qui sont touchés et ça c'est une première. Donc on a les manifestants blancs, les Gilets jaunes on se rappelle, hein, ce ne sont pas des militants syndicalistes de base, hein. Ils ne sont pas habitués à ces répressions. Et ils se retrouvent à comprendre que la police n'est pas leurs amis, que la police est violente et que la police n'hésite pas à employer le LBD ou la grenade lacrymogène de façon excessive. Donc le LBD n'est pas responsabilisé, son emploi n'est pas respecté. On a une trentaine de personnes mutilées depuis le début des Gilets jaunes. La grenade plus l'utilisation du LBD est une exception dans la démocratie française. Hein. Il n'y a que dans la démocratie française... pour la démocratie française qu'il y a ces deux armes qui sont utilisées. Même en Catalogne, par exemple, donc en Catalogne, on se souvient que le mouvement est un peu chaud depuis quelques temps, entre les indépendantistes, un gros fief du féminisme radical qui s'y est mis, etc. En Catalogne, ils avaient employé les deux armes, le LBD plus le gazage lacrymogène, et au bout de trois personnes mutilées, ils ont interdit le LBD. Donc c'est quand même un peu chaud qu'en France, on ait toujours ces deux armes qui sont utilisées, surtout que dans les démocraties nordiques, c'est l'un ou l'autre. Hein. Enfin, c'est surtout généralement la grenade lacrymogène, ce qui n'est pas ouf, hein, on s'entend bien sûr dessus. Dans les statistiques, cela nous montre qu'on a entre 7 et 12 personnes tuées en France par an durant une intervention de police. Donc c'est un chiffre qui est clairement... qui place la France au niveau de sa violence policière au-dessus de l'Allemagne. Voilà, ce qui est quand même déjà un peu chaud, mais malgré tout dans la moyenne mondiale. Hein, mondialement parlant, la police, c'est dans aucun pays ouf. Donc les chiffres sont pas ouf. Les stats montrent que les manifestants sont par contre moins violents, donc ce qui permet de démentir un peu les accusations d'énormément de politiques, notamment de droite, quand ils parlent de droite, libéraux ou les politiques actuellement dans le gouvernement de Macron, qui parlent de manifestants qui sont toujours plus violents, comme quoi flic est un métier absolument dangereux, comme pas possible. Et non, les statistiques montrent très clairement que depuis les années 70, la violence des manifestantes s'est énormément calmée, il n'y a plus autant d'armes qu'avant. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes du Black Bloc qui balancent des cocktails lacrymo de temps en temps, des cocktails Molotov, je suis calme, de temps en temps que ça fait que flic devient un métier dangereux. Bref, donc les manifestants sont moins violents, mais la police l'est toujours plus, surtout depuis ces dernières années, donc depuis 2000, hein, depuis Sarkozy, ministre de l'Intérieur, encore une fois. Et actuellement, notre ministre de l'Intérieur, Castaner, ne fait pas en sorte que le règlement soit respecté. Il le fait tout pour que les policiers ne soient pas, pour que les policiers ne se intervenant et violents, qui tuent, qui mutilent, ne soient pas reconnus, notamment avec le fameux numéro Riot qu'il ne porte généralement pas. Il insiste énormément sur le fait que les manifestants sont hostiles, que ce soit des manifestants des quartiers, que ce soit les manifestants écologiques, etc. Ce qui crée un bon système bien autoritaire en France.
Et puis même à l'époque, quand il y avait eu un incident à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
ouais, l'année dernière,
il avait totalement menti devant les caméras en disant que les Gilets jaunes avaient pénétré dans l'enceinte du bâtiment, alors que c'était totalement faux. Et qu'il n'y a eu aucune violence à ce moment-là, mais il a dit que c'était très violent, etc. Donc il va jusqu'à mentir à nous en discréditant une partie du peuple, les manifestants. Hein, là, donc.
Tout à fait. Et on a parlé des personnes mutilées, on n'a pas parlé des personnes tuées, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont tuées en manifestation, enfin énormément. Bien sûr qu'on n'est pas à une quinzaine de personnes par manifestation, hein, mais en France, c'est quand même absolument énorme. Il me semble qu'on est à quasiment une dizaine de personnes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On compte pas avant, parce que c'est vrai qu'avant, ça a touché énormément les minorités, donc les médias n'en parlaient pas. On a commencé à parler un peu des minorités qui étaient touchées grâce au collectif Adama, qui est énormément influent au point de vue du combat contre les violences policières. Je vais directement faire un approfondissement. Je conseille énormément de lire les livres de Maurice Rachfuss, et notamment Pourquoi je déteste la police de mon pays. Donc Maurice Rachfuss est un ancien juif qui s'est fait déporter durant la Seconde Guerre mondiale, et il insiste énormément sur le fait que les personnes qui sont venues chercher sa famille étaient des flics français, encore une fois, les premiers à obéir à toutes les règles. Donc Maurice a fait un excellent travail depuis les années 45, travail qui est terminé maintenant, qui s'appelle Que fait la police, où il regroupait toutes les personnes victimes qui se sont faites assassiner par la police. Donc ces personnes assassinées, malheureusement, ça arrive pas que dans les grandes villes, ça arrive pas que dans les grands quartiers, ça peut arriver près de chez nous. Et Aurélie Garand est là pour nous en parler, du coup. Donc après une interlude musicale, Aurélie va nous parler du combat de sa famille.
Autorité, port d'armes autorisées malgré les bavures énoncées. aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre dans les flics qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté des tranches de gonds, deviens nerveux.
Oh, contrôle de police, monsieur.
Systématique et la façon dont l'histoire se compris. Pas le gros mes poches, plus me pressant les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Partant à tenter la gueule mage. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, Joe Joe.
Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va vendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la penneau. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de touchy. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
Écoutez-moi, j'ai confiance.
Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils. Corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au moins de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal et du coup, les portes. Un peu moins de désordre.
Police, machine matrice, desserve les mandatés par la justice sur laquelle je pisse. Les mandatés par la justice sur laquelle je pisse.
Dieu du 93 à Saint-Saint-Denis, Chicago Bills.
Pas des récidivistes, mais pas très débiles.
Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un à un, le jeu de tous les flics de France. Mercenaires, fonctionnaires, au sein d'une milice prolétaire.
Donc Aurélie, je te laisse la parole pour la suite. Donc on vient d'écouter Fuck the Police.
Non, Police. Juste Police.
Merde. Oui, bah c'est bon, moi aussi je connais que ma Benz. Bon bref, on... Morgane du montage, tu couperas cette partie-là.
Non.
Donc on vient d'écouter Police de NTM, le groupe de Joe Star. Je laisse la parole tout de suite à Aurélie pour nous parler du combat de sa famille.
Alors bonjour à tous, moi je suis Aurélie Garand, la sœur d'Angelo. Angelo, il avait 37 ans et 3 enfants. Il a été exécuté... par une antenne de GIGN de Tours, le 30 mars 2017. Le 30 mars 2017, Angelo il était venu pour manger chez mes parents. Et vers 13h, une antenne du GIGN a débarqué, a enfoncé le portail. Angelo il s'est juste caché dans une petite remise à sa portée. Et quand le GIGN a débarqué, il a mis toute ma famille à terre, menottée, mitraillette sous la tempe. Il y avait mon fils de 3 ans à l'époque. Et ils ont tout fouillé, quoi, les caravanes, la propriété. Et ils étaient prêts à repartir. Quand Angelo il a fait un petit bruit dans cette remise. Et à ce moment-là, ces 5 hommes du GIGN qui se sont précipités dans la remise sans issue. Et ces 2 hommes qui ont tiré 5 balles dans le torse de mon frère. 5 balles tirées dans les organes vitaux. Cœur, foie, poumon et rein. Il y avait ma famille présente. Mes parents étaient à peine 5 mètres. Tout le monde a entendu qu'il y a eu ce bruit. Ils sont entrés et il y a eu les coups de feu directs. Mon frère a été abattu sans sommation. Et aussitôt après, on s'est constitué partie civile grâce à l'aide de militants, d'autres familles de victimes, notamment Amal Bentounsi, qui nous a aussi conseillé une avocate, parce qu'on n'est pas préparé à tout ça. 6 mois après, la juge d'instruction s'est déplacée chez nous, sur les lieux du crime, et a décidé de mettre les 2 tueurs, parce qu'il y a 2 tueurs, il y a 2 tireurs, a décidé de les mettre aussitôt en examen contre l'avis du parquet, qui voulait, lui, les placer en simple témoin assisté. Mais en octobre 2018, on nous a rendu un premier non-lieu à Blois par une nouvelle juge qui avait été nommée, sans même qu'on soit mis au courant, quoi. Depuis, Depuis, on lutte. Depuis, on marche. Depuis, on a rencontré beaucoup de familles de victimes. Parce qu'Angelo, ce n'est pas un cas isolé. En 2017, ça a été une année meurtrière. Il y a eu 36 morts par les forces de l'ordre. On a eu le premier non-lieu à Blois. On a fait évidemment aussitôt appel. Et en février 2019, on nous a rendu un deuxième non-lieu, mais cette fois-ci en appliquant pour la première fois l'article de loi L435-1, un véritable permis de tuer qui accorde la sécurité juridique à toutes les forces de l'ordre. C'est le GIGN qui a tué Angelo, mais cette loi concerne aussi le policier municipal allant jusqu'à la douane. Avec cette loi, en fait, il n'y aura pas de procès. Avec le L435, c'est des juges qui ont décidé dans un bureau à huis clos, sans nous, sans personne, seuls les avocats de la partie adverse et les nôtres, qui ont décidé que, en fait, ils avaient fait leur travail. Ils ont fait leur travail, parce que ceux qui ont tué Angelo reconnaissent, et ça c'est noir sur blanc, avoir visé Angelo. Et la justice ne nous a pas écoutés, la justice nous a méprisés. Dans le dossier, on voit très bien que l'appartenance à la communauté des gens du voyage, c'est comme si c'était une raison, c'était la raison de la mort aussi. Puisque depuis le début, que ce soit dans les médias, partout, enfin dans le dossier, que ce soit même le parquet, que ce soit les gendarmes, on nous a toujours appelé, vous faites partie de la communauté des gens du voyage. On nous a envoyé le GIGN parce que Angelo était en prison en 2016 et il a eu une journée de permission et il n'est pas rentré. Pendant 6 mois, Angelo, il a vécu dehors, il allait où il avait envie en fait, il vivait dans sa voiture. Et quand Angelo il est mort, tout de suite, ça a été dans les médias, et ça on retrouve ça aussi dans le dossier, un gitan évadé, en cavale, potentiellement dangereux, potentiellement armé, un toxico, un voleur, enfin un homme en fait qui a mérité sa mort. Depuis, on marche et on continuera à marcher, puisqu'on a des revendications en fait, puisqu'on n'est pas là pour faire des caprices, puisque nos frères sont morts. Et la moindre des choses, parce qu'à l'heure actuelle, on n'en est même plus à demander une condamnation, à l'heure actuelle, on en a demandé un simple procès. Quand la force publique tue, automatiquement, un procès public devra avoir lieu. J'ai jamais vu dans d'autres affaires de meurtre que les tueurs, en fait, n'avaient pas de compte à rendre à la justice, et même aux citoyens, puisque là, c'est les forces de l'ordre qui ont tué. Appeler à la marche, cette année, c'est encore important. On a toujours marché pour Angelo et pour les autres victimes. Et aussi, surtout, pour plus que ça se reproduise. Parce que dans tout ça, nous, on n'a rien à gagner. On ne veut surtout pas que ça se reproduise. On ne veut surtout pas que ça arrive à nos enfants. On appelle à la marche parce que on a des revendications claires. C'est à chaque fois que la force publique tue, un procès doit avoir lieu. À chaque fois que les forces de l'ordre tuent, ils ne devraient plus exercer. À chaque fois que les forces de l'ordre tuent, on nous doit la vérité. Et venir marcher le 28 mars à Blois pour Angelo, c'est aussi venir marcher pour vous, pour l'avenir, dans un état de plus en plus autoritaire, avec dans un état qui se dit démocratique, qui ne l'est pas, dans un état où la peine de mort a été abolie, mais qu'il y a surtout des peines de mort extrajudiciaires, quand les forces de l'ordre sont seuls juges du droit de vie ou de mort sur nos frères, on doit se révolter, on doit marcher, on doit crier nos revendications parce qu'on existe, parce qu'on a le droit à la vie. Et pour toutes ces raisons-là, on vous invite à venir marcher, à réveiller Blois. Ça s'est passé à 10 minutes de Blois seulement. Et pourtant, depuis, c'est le silence. Et on a besoin de crier que tout le monde a le droit de vivre. Voilà.
Merci beaucoup, Aurélie. On va diffuser du coup une nouvelle interlude musicale. Vas-y.
Et c'est « Toi le gitan » de Nino.
Toi qu'on appelle voleur de poules, toi le gitan des temps modernes, toi qui vas de ville en ville, et toi qu'à la vie difficile, toi qui étais en liberté, toi aujourd'hui emprisonné, toutes ces lois qui ont changé et qui t'ont transformé sur les routes de ce pays. Tu peux plus vivre ta vie. Les gardiens sont toujours là pour faire respecter la loi, comme les vieux d'autrefois. Tu voudrais bien faire ta vie avec toute ta famille, tous ensemble réunis sur les routes de ce pays. Tu peux plus vivre ta vie. Les gardiens sont toujours là pour faire appliquer la loi, comme les vieux d'autrefois. Tu voudrais bien faire ta vie avec toute ta famille, ensemble réunis, c'est ça la vraie vie. Toi, tu prends ton petit camion pour aller chiner le matin. Toi, qui pourrais pas travailler en usine comme les gardiens. Toi, t'es en liberté, toi aujourd'hui emprisonné, et toutes ces lois qui t'ont changé et qui t'ont transformé sur les routes de ce pays. Tu peux plus vivre ta vie. Les gardiens sont toujours là pour faire appliquer la loi, comme les vieux d'autrefois. Tu voudrais bien faire ta vie avec toute ta famille, tous ensemble réunis.
Thank you.
Donc, Aurélie, peux-tu nous parler un peu de cette chanson du coup que tu as choisi de mettre ?
Bah, en fait, cette chanson, ça a beaucoup de... on a beaucoup de souvenirs avec Angelo. Pas forcément des bons. Au début, c'était de la rigolade. Ça a sujet, en fait, avec la prison. La première fois qu'Angelo il a été en prison, il avait 22 ans. C'était pour une conduite sans permis. Et au tribunal, il avait un avocat d'office. Et son avocat l'avait décrit comme un pauvre voleur de poules, s'exclamait-il dans la cour, quoi. Le grand théâtre, pauvre voleur de poules. Angelo Garand, mon client, pauvre voleur de poules. Du coup, ça nous avait fait bien... Enfin, on avait bien rigolé, quoi. Enfin, ça y est resté longtemps, Angelo, ça, de l'appeler le voleur de poules. Mais finalement, au bout du compte, il est mort à 37 ans, alors qu'il venait manger chez ses parents dans une petite remise sans issue de 5 balles dans le torse. Et je me dis que tout ça, c'est la conséquence, en fait, aussi du racisme institutionnel. Et en fait, il me tient à cœur aussi de parler dans l'espace public, tant que je le peux, de parler aussi des prisons, de questionner la société, en fait, sur la prison. Puisque quand Angelo est mort, ou même maintenant, hein, c'est que le pauvre délinquant, de toute façon, et s'il serait retourné en prison, en gros, Angelo, il ne serait pas mort. Ça, on me l'a dit plusieurs fois pendant que je tractais en ville à Blois. Mais... Enfin, j'ai envie de dire aux gens, vous savez ce que c'est la prison, vous y avez déjà mis les pieds. Et surtout, poser les bonnes questions, quoi. Il faudrait que tout le monde, toute la société, se pose la bonne question. À quoi sert la prison ? À quoi ça sert ? Qui y va, surtout ? Dans la famille, mon père a fait de la prison, mes frères. Enfin, on a été habitués au parloir, quoi. Et ce qu'on remarque, tous les cas, c'est un fait. C'est toujours les mêmes familles qui se présentent devant les portes de prison. Alors on a beau dire, faut arrêter les conneries. Il y a des chiffres. Les chiffres, c'est pas nous qui les inventent. En prison, c'est 80% de récidive. Des conditions de vie inhumaines. La coupure familiale. La prison, c'est pas gratuit. Les fausses idées aussi que les gens ont de la prison, c'est hallucinant. Pour certains, la prison, c'est le Club Med. Eh ben, je leur invite à faire seulement une semaine. Ils verront ce que c'est. Des conditions de vie indignes, aussi encore dans un pays qui se dit soi-disant démocratique et le pays des droits de l'homme. La prison, en fait, pour moi, ça détruit. Puisque si ça serait réparateur, je vois pas comment un individu comme Angelo, il rentre en prison à 22 ans. Et qu'à 32 ans, il y est toujours. Et enfin, on a bien vu tout le long, ça commence pour une bagatelle, c'est une petite peine. Mais au-delà des petites peines, ça s'ajoute. Et dès qu'on est connu du service police-justice, c'est râpé. Et Angelo, en fait, il a fait de la prison, mais on ne peut pas dire... En fait, Angelo, il a travaillé, il a voulu travailler. Angelo, il a voulu s'en sortir, comme la plupart des personnes qui ont fait de la prison, comme la plupart des détenus. On veut nous faire croire à la réinsertion. Ça, c'est une belle... c'est de la connerie, ça. La réinsertion, faut se poser la question, comment on se réinsère après avoir été coupé de sa famille, de la société, de plus rien avoir, privé de sa liberté, privé de ses droits humains, de sa dignité. Comment on fait, supposons, au bout d'un an, on ressort. Comment on fait pour se reconstruire ? Puisque, à la base, si on a été en prison, c'est déjà qu'il y a une erreur. On a fait quelque chose d'illégal. Enfin, à voir ce qui est légal et illégal maintenant aussi. Mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Et comment on peut se réinsérer après ça, en fait ? Voilà la question. En fait, il n'y a rien. C'est le vide. Après la prison, c'est le vide. Donc, moi, je veux bien, il faut faire une bêtise, il faut être puni, mais à quel prix ? Et est-ce que ça répare, d'un premier temps, les victimes ? Est-ce que ça répare la personne ? Bien entendu que non. Ça fait que, en fait, c'est un engrenage. La prison, le système carcéral, c'est un engrenage indigne, inhumain, et tout ça, quoi, en fait. Et disons que la question de du niveau carcéral, police, justice, Et ben en fait, tout ça va ensemble. En fait, c'est un système de plus en plus autoritaire. C'est un système que je pense qu'il faut combattre. Il faut combattre si on veut vivre, enfin si on veut tous avoir la même chance, parce que bon, on voit bien que la récidive c'est 80% et on voit bien aussi que c'est toujours les minorités aussi qui se retrouvent devant les tribunaux, quoi. La preuve, les tueurs d'Angelo, enfin, ça s'est passé en huis clos, les non-lieux jusqu'ici, pas en procès public. Et en même temps, quand on lutte contre l'injustice, la prison, ça fait partie d'une des plus grandes injustices aussi de la société française.
Très bien, c'était très vrai et très bien dit. Merci beaucoup Aurélie. Et sur le sujet de la prison, je renvoie aussi à un livre paru chez Libertalia l'année dernière, il me semble. Donc sur l'abolition de la prison, aux éditions Libertalia, qui en parle très très bien. Ça permettra d'approfondir ce que tu disais Aurélie, qui est très très juste, sociologiquement parlant.
Donc on rappelle que le Ravachol de Mars est en vente et que vous pouvez l'acheter tous les samedis matins sur le marché de Blois, devant le bar Le Saint-Lubin, au prix modeste de 1 euro. On rappelle aussi que la marche pour Angelo, ce sera le 28 mars, à quelle heure déjà ?
14h30.
À 14h30, le 28 mars à 14h30 à Blois, j'imagine, du coup.
Et on vous invite également à vous abonner et à aimer la page Facebook, donc Justice pour Angelo, du collectif Blaisois. Et a également donné sur la cagnotte Litchi pour que l'association puisse mettre en place d'autres actions et des actions plus fortes encore. Donc on vous invite énormément à participer à la marche, à rejoindre le collectif Justice pour Angelo, à aller aimer la page Facebook, à donner à la cagnotte Litchi et voilà.
Voilà, bah merci beaucoup Aurélie d'être venue.
Merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment super que tu sois là.
Et merci. Donc on va se laisser sur Lettre à la République de Kerry James.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces régions d'honneur, de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République.
République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends que je n'attends plus qu'elle-même.